Bats-toi. 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 Bats-toi.
Tribune libre.
Bah c'est une émission.
Une tribune libre.
C'est une émission, c'est sur Air d'Ivoire. C'est sur comment ?
Tribune libre.
Air d'Ivoire, c'est sur Air d'Ivoire.
Une tribune libre.
Avant de mourir.
Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Diwa.
Ouais, la radio du Diwa, 107.5 FM, RDWA, www.rdwa.fr.
Et aussi sur Trafic de Rock, et vous écoutez l'émission...
À Tarbes.
The Émission.
À Tarbes, Trafic de Rock.
Ah oui, non mais...
Bon. The Émission, ouais, ouais, Tribune Libre. Oh.
Exactement,
Tribune Libre. Tant qu'on n'est pas en tôle, quoi, bon.
Voilà. Donc, Tribune Libre avec Philippe et...
Philippe.
Et Philippe. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment Macron peut-il oser faire tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et puis, d'une perspective, quand même, on insistera un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu, sur ce que doit être le 22 mars. Alors, tous ceux qui ne savent pas, quand je dis 22 mars, ce qui se passe le 22 mars... Alors déjà, ils ont un zéro pointé, ouais, parce qu'ils devraient le savoir. Et puis, les enjeux de ce 22 mars, c'est vachement important.
C'est assez symbolique, le 22 mars. Ça me rappelle quelque chose, ça.
Ah oui,
ouais. Ça me rappelle Nanterre, là.
D'accord. Ah oui, donc, ouais, un début de quelque chose. Ouais, d'accord. Donc,
il y a une cinquantaine d'années, quand même.
Quand même, oui. Donc, ça commence à dater. Mais voilà, pourquoi ce 22 mars, faudrait faire quelque chose tous ensemble. Et tout le monde est concerné. On va essayer d'en parler. On va revenir sur des petits points de l'actualité. On nous annonce dans la presse que, bon, c'est le point, hein, qui nous annonce que Macron, il est tombé de 5 points. Et est tombé à 35% d'opinion favorable. Pour les sociologues, c'est un recul qui doit être dû à certains petits trucs, quoi. Bon, par exemple, chez les retraités, quand même, il a perdu 10 points, Macron. Mais on pourrait se dire, les retraités, ils sont tranquilles et tout. Ah, mais non, les retraités, ils en prennent plein la gueule, faut savoir.
À qui le dis-tu ?
Ouais, les retraités, ils ont vu leur pension gelée. Gelée, c'est-à-dire que, finalement, elle diminue. Hein, et donc, on augmente la CSG. La CSG, il faut savoir que c'est un impôt. Et que ça remplace le salaire différé, c'est-à-dire la part de ce qu'on prend sur le salaire, c'est-à-dire des richesses créées pour... Alors, chez un retraité, est-ce qu'il crée des richesses ? Non, mais c'est de la richesse en moins pour eux.
Oui, mais il en a créé quand même. Il consomme aussi, le retraité. Hein,
tout à fait. Donc la CSG, mais il n'y a pas que la CSG, il n'y a pas que les retraités. Okay. Bon, il y a aussi les cadres. Donc, ils perdent aussi 5% chez les cadres. Ça veut dire que, bon, ça grignote de partout. On peut le voir aussi bien chez les agriculteurs. Dernièrement, il a eu à s'entretenir avec les agriculteurs au salon. Ça a été pas mal. L'arrogance est toujours là, malheureusement. Donc, on espère, là, une fois de plus, que le 22, il y aura tout le monde pour lui faire baisser un peu son caquet.
Ouais, en même temps, à chaque fois, de toute façon, ce qu'on voit à la télé, aux infos, c'est, je veux dire, il est opposé à des gens qui n'ont pas grand-chose à dire, qui n'ont pas trop d'argumentation. Donc, ou à la limite, on se demande si ce n'est pas de la mise en scène pour lui permettre de... Alors que de temps en temps, oui, il s'en prend un peu dans le nez, mais ce n'est pas bien méchant quand même. Hein, c'est pas... Donc, c'est vachement orienté. Hein, c'est quand même vachement... Après, moi, je me demande, ça fait mal de tomber de 10 points.
Eh bien, faudra lui demander après le 22 mars. Hein, ouais. Mais je pense que ça va lui faire mal.
Voilà, mais de toute façon, c'est que de l'enfumage. Hein. Tu te rappelles, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Macron, il avait déclaré qu'à la fin de l'année 2017, il n'y aurait plus aucun SDF dans la rue. Hein.
Hein. Ben oui.
Hein. Ah oui, oui, oui. Il
l'avait dit.
Alors, en même temps, comme il y en a encore, ils ont mis toute la machine de propagande là en marche. Hein. Et il y en a même un qui a déclaré que ceux qui restent à la rue, ils faisaient par choix. Ouais, surtout par moins 15, par choix. Ils restent dans la rue par choix. Il faut oser. Là, on atteint les limites du cynisme. Mais bon, venant de ces gens-là, on ne s'étonne plus de rien. Quoi, tu vois. Alors, il y en a même un qui a indiqué qu'il ne restait plus que 50 SDF à la rue dans Paris. Ben, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, ils ont fait un comptage là. 50, parce qu'en fin de compte... Ils ne tiennent compte que de ceux qui n'ont pas d'accueil le soir, c'est-à-dire vraiment ceux qui restent dans la rue et qu'ils ont pu voir, parce que, je veux dire, tous ceux qui n'ont pas pu voir. Donc, comme quoi, il y a toute une manipulation, là.
La manipulation à Paris, elle est forte, mais ça n'empêche pas ailleurs qu'il y ait des SDF qui meurent.
Bah, il y en a 111 qui sont morts depuis le début de l'année quand même, hein. Et dont 18 à Paris. Alors c'est sûr que ça fait chuter les chiffres à Paris, bien sûr, hein. Ceux qui meurent, on ne les comptabilise plus. Voilà. Mais c'est sûr que Macron, au fond de son palais, bon, bah ça lui passe au-dessus de la tête, quoi. C'est encore un effet d'annonce, quoi. C'était encore un truc.
Oui,
et
c'est...
j'ai envie quand même de dire la petite phrase là, de la ministre de la Défense, là, qui est pas mal aussi, non ? Je ne sais pas ce que tu en penses, là.
Eh bien, écoute, oui, cette ministre de la Défense, bon, on pourrait la citer, hein, et bon, elle s'appelle
Florence Parly,
oui. Et Florence Parly...
Pénicaud et Castaner.
Bon, Pénicaud, Castaner, Parly, même combat. Et dans les déclarations...
Tous pourris.
Dans les déclarations, ils sont quand même... ils ont honte de rien. Alors, elle a déclaré... beaucoup de pays sont confrontés à cette situation. Alors, cette situation, elle est terrible, en effet. Hein. Alors, je vous la décris. Hein. Après avoir livré des armes à d'autres pays, alors que ces armes n'étaient... pas censé être utilisé. Alors, là, dans le cynisme, là, on a franchi un cap qui est absolument fou, c'est-à-dire une ministre de la Défense qui pense qu'elle va pouvoir vendre des armes dans les pays étrangers, mais que ces armes ne sont pas censées être utilisées, à savoir, bien sûr, les armes ne sont faites que pour dissuader. On en a un exemple tous les jours quand on regarde les actualités à travers le monde.
Bien sûr,
ouais. Et là, on a franchi un nouveau cap. Hein. Donc, rappelez-vous, hein, Florence Parly, elle est aussi atteinte de macronisme. Mmh. Ça fait mal.
Ils sont bien.
Alors, il y en a qui se... comment dire... il y en a qui sont mal, hein, bon, les SDF et tous ceux qui sont à la rue. Mais il y en a d'autres pour qui ça marche bien. Hein. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça roule pour eux?
Ah ben ça roule bien pour eux, ouais, il n'y a pas de problème. Quoi. Tu vois, Alors, selon un rapport de l'INSEE, l'industrie manufacturière, elle a perdu 1,5 million d'emplois en 10 ans, soit 530 000 salariés. 16% de la force de travail industrielle, c'est pas mal. Entre 2008 et 2015, la production industrielle a reculé de 15%. Son poids dans le PIB, il a chuté de 2 points à 11,2%. Et même le bâtiment est touché. Alors qu'on disait, tu vois, quand le bâtiment va, tout va, bah même le bâtiment est touché. Et les industries les plus touchées, c'est le textile, l'habillement, le cuir, le bois, le papier, l'imprimerie, le caoutchouc, la métallurgie. Selon l'étude, toutes les régions françaises, elles sont touchées. Hein, toutes les régions françaises sont touchées. Mais pour Macron, rien de grave à tout ça. Tu vois ? 13 février, devant la presse, Macron il a déclaré « Le fait qu'il y ait des destructions d'emplois ne doit pas conduire à une préoccupation politique. Dans la vie économique, il y a des emplois qui meurent et d'autres qui naissent. Il n'y a que le sien qui... ça va loin quand même. Si on se met à vouloir bloquer cette transformation, on enraye toute la vie économique.
Ben, bien sûr.
Quand il y a des changements technologiques, il est normal que des emplois disparaissent. Bah, ouais, il ira même jusqu'à parler de destruction créatrice. Tu vois ? Il faut quand même rappeler qu'en 2016, les 40 entreprises du CAC 40 ont réalisé 75,5 milliards de bénéfices. C'est du bénéf hein, que je parle. Je ne parle pas de chiffre d'affaires. Là. Soit une augmentation par rapport à 2015 de 32%. Ça roule pour les patrons. Hein.
Ça roule pour les patrons. Et moi, je voudrais signaler un petit truc. Si vous allez sur Internet, vous pourrez voir le délégué CGT recevant M. Le Maire ce ministre qui n'a pas froid aux yeux parce que bon, il est arrivé dans une super bagnole avec le PDG de Peugeot et il savait qu'il serait reçu à l'entrée par la délégation CGT. Et ce ministre, lui, a à peu près les mêmes paroles que Macron. Hein.
Oui, oui, mais ils sont tous formatés. Hein,
ouais,
ils sont tous,
il ose venir avec cette super bagnole, frimer devant les gens, devant une entreprise qui a perdu la moitié de ses emplois. Il y a un plan en préparation qui fait qu'il y aura des emplois supprimés. Il faut savoir que les seuls emplois qui ont été créés, c'est les emplois intérimaires et que certains salaires sont autour de 800 euros. Quand on écoute cette altercation, parce que c'est pas autre chose, on se demande comment un homme aujourd'hui en 2018 peut oser tenir des propos pareils devant des gens qui viennent lui demander d'arrêter cette casse, quoi. Et là, en l'occurrence, il lui demandait, mais qu'est-ce que vous venez faire là? Vous venez préparer les nouveaux licenciements? Et le type, il dit, bah oui, grosso modo, s'il y en a besoin, on les fera, parce que c'est comme ça que ça doit se faire, hein, c'est la nouvelle économie. Et donc, ça soit le maire ou Macron, ce qu'ils veulent, c'est se concerter. Hein, quand on est face à des syndiqués, eh bien, les revendications, on les écoute même pas, hein, on les entend pas. Tout ce qu'on veut, c'est concerter. Concerter, ça veut dire discuter pour se mettre d'accord sur la façon dont on va appliquer les réformes.
Associer, voilà. Associer syndicats à la destruction.
C'est la nouvelle façon de. C'est la nouvelle façon de faire.
Des gens très méprisants. Hein. C'est le mépris de classe, mais méprisant, mais méprisable aussi. Hein. Faudrait pas qu'ils l'oublient, quoi. Parce que la cible, en fin de compte, la cible à travers là, toutes leurs réformes, toutes leurs attaques, c'est les acquis de 36 et 45. Hein. Hein, la loi de ratification des ordonnances définitivement adoptée le 14 février, le gouvernement semble pris de frénésie, là, ciblant toutes les conquêtes sociales arrachées notamment en 36 et 45. Ils veulent supprimer 120 000 postes dans la fonction publique. Son public, je ne sais pas, c'est vachement important. Quoi. Je veux dire, les fonctionnaires, c'est quand même le tissu de la nation. Quoi.
Et des services publics.
Des services publics, quoi. C'est quand même ce qui fait. Voilà. Donc 120 000 postes de fonctionnaires, en fin de compte, pour faire des économies. Des économies, pourquoi faire des économies? Ça, il faut le rappeler à chaque fois. Pourquoi ils veulent faire des économies? Pour, d'un côté, supprimer des postes de fonctionnaires, derrière, il y a la privatisation, c'est-à-dire refiler un outil. Un outil que nous, on a rendu performant, qu'on a entretenu pendant des années,
ouais.
Par nos impôts, et leur filer à leurs copains, les capitalistes, quoi, pour voilà,
c'est,
qu'ils fassent
c'est
la
comme ça. C'est comme ça qu'ils font des bénéfices.
Et puis en même temps, faire des économies, en fin de compte, pour moi, c'est du détournement d'argent public. Parce que l'argent, on paye qu'on continue à payer des impôts, on continue. Et cet argent, il va où? En fin de compte, il sert justement à spéculer, il sert justement à, par exemple, à dépenser des milliards, là, t'as vu le budget de l'armée, là, des milliards le budget de l'armée, hein, parce que bien sûr, Macron est aux ordres de Trump, alors bien sûr, on est là pour soutenir les Américains dans leur hégémonie, et on supprime, donc, pour pouvoir financer tout ça, on supprime le budget de la santé, le budget de l'éducation, on s'attaque à la SNCF, on s'attaque à tous les services publics. Donc, Castaner, mon grand copain Castaner, et il a dit quand même, il faut oser assumer de mettre sur la table les tabous et les privilèges. C'est-à-dire que les conquêtes de 39-45, de 36-45, excusez-moi, c'est la sécurité sociale, les congés payés, les régimes spéciaux et tout, c'est des tabous, voilà, c'est des privilèges. Les cheminots sont des privilégiés.
Et tous les travailleurs
gens qui sont, par exemple, à l'heure actuelle, qui bénéficient de la retraite par répartition, sont des privilégiés. De toute façon, il y a eu ce discours, hein, ça fait un moment, hein. C'est-à-dire qu'on essaye de séparer, en plus, ils sont pourris jusqu'à la moelle, ils essayent de séparer depuis des années, ils n'y arrivent pas vraiment, les travailleurs du public du privé, ça on l'a connu, ils tombent mal parce que nous, tous les deux, on est un travailleur du privé, un travailleur du public, donc on a toujours échangé en permanence. Moi, j'ai toujours dit que heureusement qu'il y a encore les syndicats du public, justement, pour... Qui font la résistance, parce qu'il n'y aurait plus rien, hein, je veux dire, ça serait pratiquement table rase, hein, ils auraient tout décapité. Oui. Donc tout ça, c'est des pour eux, et ce sont des privilèges.
On va parler de ça tout de suite après une petite pause. Bon, on va rappeler d'abord qu'on est bien toujours sur Air d'Ivoire, hein.
Ouais.
Tribune Libre, et que Tribune Libre, ça va être la pause médiane. J'ai entendu ça hier. Quelque chose qui m'a un peu surpris, surtout le début, hein, je m'attendais pas à ça. Ça s'appelle En Marche. C'est un petit groupe qui s'appelle Les Goguettes et vous verrez, ça se termine fort.
Nous sommes en 2017 après Jésus-Christ. Toute la France est envahie par les salariés fainéants et les syndicalistes extrémistes. Le peuple est au bord de la décadence, noyé dans les allocations et les acquis sociaux.
Seul un héros sera capable de sauver la France de la catastrophe qui s'annonce. Mais là, regardez dans le ciel. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Est-ce un cerf-volant? Non, c'est Emmanuel, il est parmi nous. Emmanuel, alors réjouissez-vous. Emmanuel, il a quitté l'Olympe. Jupiter, alors qu'il gagnait une blinde. Chez Rothschild, il récrit ici-bas. Emmanuel, les tables de la loi. Emmanuel, il veut notre bien. Emmanuel, il a un très bon fond de teint. En marche, vers un avenir radieux. En marche, vers un monde merveilleux. En marche, c'est fini les partis. En marche, oui, un seul ça suffit.
Emmanuel
se méfie des médias.
Emmanuel,
il s'y trouve à l'étroit.
Emmanuel,
sa pensée est trop vive,
trop complexe.
Y a que Trump qui arrive à suivre.
Emmanuel
s'exprime avec clarté.
Emmanuel
parle un langage châtié,
trop subtil
pour ces crétins de prolos.
C'est feignasse.
Oh zut, y avait un micro.
En marche,
regardez ces guignols.
En marche,
avec leurs banderoles.
En marche,
qui n'aiment pas les réformes.
En marche,
pourvu qu'ils aiment les uniformes.
Emmanuel
n'aime pas les assister.
Emmanuel,
ni les contrats aidés.
Tu sais quoi?
Ton association,
on s'en fout.
Ça rapporte pas de stock option.
Emmanuel
taquine les étudiants.
Emmanuel
baisse les aides au logement.
C'est bien fait.
Oui, je comprends que c'est un souci.
Compliqué.
5 euros, c'est le prix d'un demi.
En marche,
vive le pragmatisme.
En marche,
abat les populismes.
En marche,
le peuple s'est déglandu.
En marche,
ils n'ont qu'à se bouger le cul.
Comme nous,
nous on est conquérants.
Oui, nous, on est entreprenants. En marche,
pour le pouvoir d'un seul.
En marche,
et rien pour vos gueules.
En marche,
votons les pleins pouvoirs.
En marche,
et chantons sa gloire.
En marche,
et que son règne dure.
En marche,
vivement une bonne dictature.
En marche.
Eh ben nous revoilà, toujours sur la radio du Diwa, 107.5 FM, RDWA, www.rdwa.fr, et sur radio de...
Trafic de rock, à Tarbes, mais, bien sûr. Donc, espérons que la dictature n'est pas arrivée encore, mais on va essayer quand même de comprendre quel est leur. On a parlé de Macron, de Philippe, de Buzyn, de Parly, etc.
Et toute la clique, quoi.
Toute la clique, ouais.
Toute la clique, quoi.
Comment ils font, par exemple, pour transformer le système de santé? Alors, le système de santé, c'est à la fois la sécu, les hôpitaux, et faut quand même expliquer un peu ce qui se passe. Pourquoi quelque chose qui a toujours fonctionné à peu près correctement devient aussi malade que ça? Enfin, ce qui voudrait nous faire penser.
Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage.
Voilà. Et donc, la rage, ça s'appelle, dans les hôpitaux, ça s'appelle le nombre de lits. Il faut savoir que depuis quelques décennies, le nombre de lits dans les hôpitaux a été divisé par deux, je pense, hein, au moins par deux, mais c'est peut-être par dix. Il faut savoir que donc le nombre de lits est lié aux effectifs, hein, parce que quand on a plus on a de malades dans un hôpital, plus il faut de lits et plus il faut de gens autour.
Donc, j'ai le chiffre là vite fait.
Oui,
120 000 lits fermés en 20 ans. Voilà.
D'accord. Donc, quand je disais la moitié, je crois qu'on ne doit pas en être loin. Que fait le gouvernement? Et les gouvernements précédents avaient déjà bien commencé. Hein. Enfin, faut, faut quand même savoir
faut pas oublier Sarkozy, ce qu'ils veulent, ouais,
ce qu'ils veulent faire, c'est un système de santé qui serait privatisé et qui serait plus du tout le même. Alors, ils accusent l'hôpital d'être un puits sans fond, c'est-à-dire que forcément il y a des besoins, donc faudrait alimenter ces besoins par de l'argent sans arrêt. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire des réformes. Alors, faire les réformes, c'est la première réforme qu'ils avaient trouvée de génial, c'était de faire le tarif à l'acte, c'est-à-dire que un acte rapporterait tant, etc., etc., et l'hôpital devait s'en sortir comme ça. Pas besoin de l'argent de l'État. Normalement, ce qu'on y fait dans l'hôpital, ça devrait être... ça devrait suffire à...
C'est rentable.
C'est rentable.
Équilibrer le fonctionnement.
Ah voilà, oui, donc rendre la santé rentable. Donc ils disent, par exemple,
c'est-à-dire que on vous fait l'appendicite, en même temps on va vous faire un peu la vésicule, comme ça ça nous fera un petit peu plus. Hein, voilà.
Donc augmenter les actes, ça devrait augmenter l'argent qui rentre et ça devrait permettre de fonctionner. Et donc ils publient les résultats de tout ça. Mais comme ils suppriment des lits, mais qu'ils suppriment des emplois, eh bien l'hôpital asphyxié peut pas faire plus d'actes. De toute façon, ils sont complètement à fond. Ils peuvent pas recevoir plus de malades. Donc on accuse l'hôpital d'être un puits sans fond, mais en même temps on n'y met pas un euro de plus dedans. Et donc l'équilibre des comptes ne se fera jamais. Donc c'est une façon de casser le service public. On demande toujours plus aux employés, mais comme ils sont de moins en moins nombreux et qu'on leur donne de moins en moins de moyens, ils pourront pas faire plus. Et donc on les accuse sans arrêt d'être à la limite. Et si on continue de diminuer les dépenses, on va encore fermer des lits, on va encore supprimer des emplois. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, dans la santé publique, bon, ça commence à se voir un peu. Hein. Il y a des gens qui commencent à moins se soigner, qui vont avoir un hôpital trop loin, donc qui vont pas avoir les moyens d'être hospitalisés, etc. Et au bout d'un moment, il y aura des besoins. Qui va se réjouir de tout ça? Eh bien, le privé. Bon, si on regarde un petit peu ce qui se passe en France, c'est déjà un peu le cas. Tout ce qui est très rentable, c'est le privé qui le fait. Et tout ce qui n'est pas rentable, c'est ça va au public. Alors ouais. Ça rappelle le système états-unien, la santé à double vitesse, l'éducation à double vitesse. Ouais. Et c'est exactement le modèle qu'ils veulent pour la France.
On y est déjà un peu. On y est déjà un peu parce que toi qui as été dans la fonction publique, qui as été enseignant, tu sais, tu l'as vu qu'on recrée peu à peu les inégalités sociales, hein, à travers le fonctionnement des établissements, selon où ils se situent, selon, tu vois, après les cartes scolaires, tout ça. Bon, on a recréé une forme d'inégalité. Et dans les hôpitaux, tu parlais des gens qui se soignent de moins en moins. Parce qu'en fin de compte, peu à peu, ce qu'on appelait avant des mutuelles sont devenues des assurances complémentaires qui peu à peu se substituent à la sécurité sociale, à la sécu. Donc c'est vrai qu'il y a des gens, tant que tu peux te payer une bonne mutuelle, tu as des soins, tu peux aller très loin, et si ta mutuelle ne te rembourse pas, le moindre examen, la moindre consultation, c'est très très cher maintenant. Donc on recrée une inégalité au niveau du soin, au niveau de l'accès aux soins. Quoi.
Et c'est pas que
alors,
chez...
Je voulais dire juste une petite précision, là.
Vas-y.
Il y a 1132 médecins hospitaliers qui ont interpellé la ministre. Hein, c'est un appel initié par des médecins hospitaliers de l'Isère. Là. Ils ont recueilli 1132 signatures dans toute la France. Hein, ils s'adressent à la ministre pour l'alerter sur la dégradation du service public hospitalier. Tu vois, service public, j'insiste bien. Et qui demande à la rencontrer dans les plus brefs délais. Elle n'a même pas répondu. Donc ils appellent aussi au 22 mars. C'est-à-dire qu'au départ, le 22 mars, c'était cheminot. Et peu à peu, t'as le personnel d'Air France... Tout vient se greffer dessus. Tu as les lycéens, tu as les étudiants.
Parce que les étudiants, quand on regarde le système de santé aujourd'hui, les étudiants sont encore mal lotis, je dirais, la jeunesse en, en général. Quelquefois, il faut choisir entre manger ou se soigner, parce que les moyens, enfin surtout quand on leur supprime des APL, ou donc la situation est vraiment vraiment grave. Et bon, ça m'étonne pas que ces médecins appellent au 22 mars. Quand tu as parlé de la réforme de l'enseignement, j'ai récemment entendu un instituteur, on va l'appeler comme ça parce que pour tout le monde ça résonne bien, professeur des écoles si on veut, qui expliquait la situation dans son établissement. Il disait que le gouvernement fait des annonces en disant on va mettre un instituteur pour 15 élèves, enfin 12, 13, 14, 15 élèves. Il dit, mais faut savoir dans quelle situation ça se fait, ça. On met déjà sur ces classes-là, on va pouvoir mettre des stagiaires, c'est-à-dire des nouveaux instituteurs qui viennent d'arriver. Les nouveaux instituteurs, face à des situations comme ça, bon, s'ils ont 15 élèves, ça va aller, mais on va plutôt les mettre dans des classes où il y a beaucoup d'élèves, parce que dans ces classes-là, on mettra des instituts plus... Enfin, c'est ce qu'a dit le gouvernement. On va mettre des instituts qui tiennent la route, hein, qui ont de l'expérience. Mais en cas de maladie, c'est-à-dire si un de ces instituts... comment on va remplacer? Oui, donc on va remplacer qu'un demi-poste. Ça fait que l'instituteur qui pensait avoir une classe à 12 élèves va se retrouver avec le double dans cette situation-là. En sachant que lui, il a remarqué que dans sa jeune carrière, c'est un jeune instituteur, il a déjà vu beaucoup de stagiaires démissionner, vu les conditions qui sont faites. Pire que ça, ce qu'il a remarqué aussi, c'est que quand on appelle des gens à remplacer des instituteurs, des professeurs des écoles, eh bien, on en vient à, par les ANPE et même directement le chef d'établissement, vient à embaucher des gens qui n'ont strictement aucune expérience et qui n'ont absolument pas le niveau. Alors, je ne dis pas ça pour les dévaloriser, mais je veux dire, si on veut...
Le statut, c'était une garantie du niveau. Hein.
Tout
c'était,
à fait.
Justement, c'est tout ce qu'on veut casser. Bon, voilà, c'est leur vision de la société, c'est leur vision de la civilisation. Je ne sais pas si ce mot-là a un sens pour ces gens-là. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on n'en veut pas. Donc le 22, dans la rue.
Dans la rue, public, privé, tous ensemble, le 22, il va falloir que ça fasse beaucoup de bruit et il ne va pas falloir mollir. Alors pour vous donner la pêche, hein, parce qu'il s'agit aussi de se donner la pêche, on va peut-être... passer à du rock, du bon vieux rock, un Irlandais qu'on aime beaucoup, nous tous les deux, qui s'appelle Rory Gallagher.
Yes.
Et le titre,
c'est A Million Miles Away. Bah, bientôt sur RDWA, www.rdwa.fr, 107.5 FM.
Ah, bah, c'est ça qu'il fallait dire. Bah, c'est
bien. Ouais, voilà. Et sur Trafic de Rock, à Tarbes.
Allez, à bientôt.
This hotel bar is full of people. The piano man is really laying it down. Even the old bartender is high as a steeple. So why tonight should I wear a frown? The joint is jumping all around me, and my mood is really not a style. Right now the blues
song on the lips of everybody. There's a smile all around the room. There's conversation overflowing. So why must I sit here in the gloom? This hotel bar has lost its people. The piano man has caught the last bus home. The old bartender's asleep in the corner. So why must I still be here? I don't.